Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. Le Parlement israélien s'est dissous sur le coup de minuit aujourd'hui, entraînant la convocation de nouvelles élections, les quatrièmes en deux ans. L'appel à de nouvelles élections en Israël consacre l'impossible union de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz dans un même gouvernement. Le scrutin devrait avoir lieu au mois de mars. COVID-19, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, se réunit aujourd'hui pour discuter des stratégies à mettre en œuvre face aux variants du coronavirus. Ce sera une réunion fermée, d'espère, et une opportunité pour les autorités sanitaires britanniques de faire un point sur la situation et répondre aux questions liées, a précisé une porte-parole de l'OMS. La campagne de vaccination dans l'Union européenne devrait commencer dimanche. Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden et l'immunologue Anthony Fauci ont reçu une première dose de vaccin devant les caméras de télévision. Joe Biden a annoncé mardi qu'il demanderait l'année prochaine au Congrès de voter un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Le président américain Donald Trump a de son côté rejeté le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars adopté par le Congrès, le qualifiant de honte et réclamant une forte augmentation du montant des chèques envoyés aux familles. Sur le continent, l'Afrique du Sud a annoncé mardi s'être assuré un accès au vaccin en entrant dans le dispositif COVAX d'aide aux pays les plus pauvres. Un acompte de 19,2 millions de dollars a été versé à l'Alliance pour les vaccins, Gavi, pour assurer l'entrée de l'Afrique du Sud dans le dispositif, a déclaré le ministère sud-africain de la Santé dans un communiqué. Les autorités sanitaires sud-africaines devraient approuver les premiers vaccins avant le deuxième trimestre 2021, a estimé mardi le Gavi. Dans un communiqué, l'Afrique du Sud teste du moins actuellement au moins 4 vaccins selon l'Alliance. Le président nigérian Muhammadu Buhari a appelé mardi les 200 millions d'habitants de son pays à plus de vigilance à la veille des fêtes de fin d'année. Et alors même que le pays le plus peuplé d'Afrique enregistre une hausse importante des contaminations de COVID-19. Depuis lundi soir, des rumeurs de fermeture de tous les lieux publics, des restaurants et des événements sociaux se sont propagées dans le pays après la publication des recommandations de la force spéciale de lutte contre le COVID, un comité en charge de la lutte contre la pandémie. Politique au Niger, le parti au pouvoir a remporté les élections municipales du 13 décembre, d'après les résultats provisoires publiés mardi par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Le PNDS a remporté 1799 sièges de conseillers municipaux sur les 4246 sièges attribués dans les 266 communes du Niger. La CENI n'a pas donné de résultats pour les élections régionales tenues le même jour que les municipales. Ces élections locales, repoussées à plusieurs reprises depuis 2011, précèdent le scrutin présidentiel qui, lui, se tiendra le 27 décembre, dimanche prochain donc. Au moins 3 personnalités maliennes, dont un activiste et un animateur radio vedette, ont été interpellés depuis lundi par la Direction générale des services de l'État, la DGSE, pour les besoins d'une enquête dont les contours n'ont pas été précisés. Selon une source sécuritaire malienne, d'autres interpellations sont possibles pour faire avancer cette enquête. Le secrétaire général de la présidence de la République a par exemple été interpellé par la DGSE, a indiqué à l'AFP un membre des services de renseignement. République démocratique du Congo, Pascal Moulegua, un journaliste correspondant de la chaîne d'information RFI, Radio France Internationale, a comparu mardi devant un tribunal. Il est poursuivi en diffamation par un ex-ministre et sénateur après avoir signé pour la radio française le 20 septembre une correspondance sur des soupçons d'escroquerie autour de Transgo, la société de transport en commun. L'ex-ministre des Transports et sénateur en question, José Makila, accuse le journaliste de lui avoir publiquement imputé un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur selon la convocation judiciaire. L'affaire a été renvoyée au 29 décembre, mardi prochain donc. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, Centrafrique, les rebelles s'emparent de Bambari, la quatrième ville du pays. Le Parlement turc prolonge le déploiement de militaires en Libye. L'armée américaine déploie une impressionnante force navale au large de la Somalie. Dans quelle intention? Restez avec nous pour le savoir. La suite de nos informations en ce mercredi 23 décembre 2020, la quatrième ville de Centrafrique, Bambari, à quelques 380 km au nord-est de Bangui, la capitale, est tombée mardi aux mains de rebelles alors que le pays s'apprête à élire son président le 27 décembre. Abdourahmane Dia.
Selon le maire de cette grande ville située à 380 km au nord-est de Bangui, il n'y a pas eu de violence contre les habitants, mais les rebelles ont pillé le commissariat, la gendarmerie et les maisons des particuliers. Ils sont dans la ville, on attend des renforts qui arrivent, a confirmé un haut responsable du gouvernement centrafricain. L'attaque a donné lieu à 2 heures d'échange de tirs avec l'armée et des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, ont précisé des hauts responsables d'ONG et de l'ONU. Elle a été menée par des éléments de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des nombreux groupes armés qui se partagent plus des 2/3 de la Centrafrique. Ce groupe fait partie de ceux qui sont entrés en rébellion à l'approche des élections présidentielles et législatives prévues dimanche. Le gouvernement a accusé samedi l'ex-président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle a été invalidée, de tentative de coup d'État. Des combats ont également repris sur la route nationale numéro 1, l'axe vital qui relie la capitale Bangui au Cameroun.
L'armée américaine déploie une impressionnante force navale au large de la Somalie pour protéger le retrait de quelques 700 soldats de ce pays de la Corne de l'Afrique, ravagé par les attaques des djihadistes Shebab. Bagasikoura.
Le navire porte-hélicoptère USS McKinney Island avec à son bord une force expéditionnaire de quelques 5000 soldats du corps des Marines est arrivé lundi au large de la Somalie, a annoncé mardi AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, escorté de 2 navires amphibies, l'USS San Diego et l'USS Somerset. Il rejoint le USS Herschel Woody Williams, un navire de débarquement et de transport habituellement basé en Méditerranée et arrivé il y a quelques jours dans la zone, précise AFRICOM. L'arrivée de ces forces navales et leur capacité de combat significative montrent notre détermination à protéger nos troupes pendant cette transition, souligne le général Dagvin Anderson, chargé de superviser le retrait de Somalie. Quelques 700 soldats des forces spéciales forment et conseillent l'armée somalienne et l'armée américaine mène régulièrement des frappes aériennes contre les Shebab sans paraître affecter la capacité de ce groupe affilié à Al-Qaïda à déstabiliser le pays. Donald Trump a ordonné le retrait de la majorité de ses soldats d'élite d'ici début 2021. La plupart des soldats déplacés seront repositionnés dans des pays voisins comme le Kenya ou Djibouti.
Le Parlement turc a adopté mardi une motion prolongeant de 18 mois l'autorisation de déployer des militaires en Libye, où l'intervention d'Ankara aux côtés du gouvernement de Tripoli a inversé le cours du conflit. John Lindon.
La motion votée a été présentée par la présidence turque qui a notamment invoqué pour la justifier la possibilité d'une reprise des attaques de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar contre le GNA, le gouvernement d'Union nationale de Tripoli, reconnu par l'ONU. Le Parlement turc avait voté une première motion en ce sens en janvier 2020 en réponse à un appel à l'aide du chef du GNA, Fayez al-Sarraj, confronté à l'offensive du maréchal Haftar. Le soutien turc au gouvernement de Tripoli, notamment par l'envoi de conseillers militaires et de drones, lui a permis d'infliger une série de défaites aux portes de Tripoli, aux forces du maréchal Haftar, qui est soutenu par la Russie et des rivaux régionaux d'Ankara, notamment les Émirats arabes unis et l'Égypte. Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU et globalement respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table des négociations. Mais de profondes divisions sur le choix d'un nouvel exécutif de transition compromettent les chances de succès du dialogue politique.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
La Côte d'Ivoire a ouvert cette semaine sa première zone de protection maritime. Située au large de la ville de Grand Bérébi et d'une superficie de plus de 2500 km², elle abrite les requins et les tortues marines menacées de surpêche. La zone comprend une partie fermée à toute activité et une autre consacrée à l'éco-développement. Sa création boostera le tourisme et créera des emplois, a déclaré le ministre ivoirien de Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la semaine dernière. Le gouvernement éthiopien a approuvé la création d'une place boursière nationale. Le ministère éthiopien des Finances avait annoncé avoir élaboré le projet d'une institution boursière. Dans un tweet, le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed a dit que la mesure réduira la dépendance de l'Éthiopie vis-à-vis des financements étrangers. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le Premier ministre Ahmed a multiplié les réformes économiques. Le Nigeria a accordé un délai supplémentaire de 3 semaines aux opérateurs téléphoniques pour vérifier et valider chaque carte SIM à l'aide d'un numéro national d'identification. Les compagnies avaient initialement jusqu'au 30 décembre pour s'exécuter. La mesure a suscité une vive réaction populaire dans la mesure où 20% seulement des Nigérians détiennent une carte nationale d'identité.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des champions CAF a commencé hier avec des rencontres alléchantes. Les Young Buffaloes d'Iswaitini ont fait match nul à domicile 2-2 face à l'AS Vita Club de la RDC. Défaite à domicile de Joanneng Galaxy du Botswana 0-2 contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le Raja de Casablanca a fait match nul 0-0 au Sénégal face à Teguff FC. À suivre, entre autres rencontres ce soir, El Merrek du Soudan et Nimba du Nigeria. Bouguendi du Gabon affronte le tout-puissant Mazembe de la RDC. Le duel ouest-africain oppose le stade d'Abidjan à Ourouya de la Guinée. Le stade malien reçoit le Wydad de Casablanca. En Coupe CAF, Salitas du Burkina Faso a fait une bonne affaire en gagnant 0-1 au Soudan devant Alamal Atbara. 0-0 entre l'US Songo du Mozambique et Napsa Star de la Zambie. 1-0 pour les Sud-Africains d'Orlando Pirates en déplacement en Angola pour y affronter Sagrada. En Côte d'Ivoire, la Fédération de football plongée dans une querelle de succession pour le poste du président que brigue Didier Drogba a annoncé saisir le tribunal arbitral du sport contre une décision de la FIFA de bloquer le processus d'élection. La FIFA accuse la FIFA d'être restée silencieuse suite à ses demandes de lever de cette suspension. L'instance ivoirienne du football dit alors considérer ce silence comme un rejet de sa demande, d'où sa saisine du TAS pour, dit-elle, solliciter de cette juridiction l'annulation pure et simple de la décision de suspension. La FIFA ajoute que cette suspension a entraîné le report du démarrage des championnats en Côte d'Ivoire ainsi que de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. L'élection à la présidence de la FIFA a pris des allures de feuilleton à rebondissement depuis 6 mois. Après le rejet de la candidature de l'ancienne star Didier Drogba, la FIFA a bloqué le processus en août puis a auditionné l'ensemble des acteurs en septembre. Le président sortant de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, qui ne se représentait pas après 2 mandats et assurait depuis août les affaires courantes, est décédé le 21 novembre de maladie. La FIFA a annoncé avoir déposé une plainte en Suisse contre la gestion par l'ancien patron du football mondial, Sepp Blatter, de son projet de musée qui a fermé moins d'un an après son ouverture en 2016. L'organisation explique qu'une enquête menée par des experts externes a fait apparaître des preuves de mauvaise gestion criminelle présumée visant l'ancienne direction de la FIFA et des entreprises nommées par cette dernière dans le cadre du projet du musée de football. Selon la FIFA, ce projet a généré une facture de 462 millions d'euros qui aurait pu et dû être consacrée au développement du football mondial. L'avocat de M. Blatter, Lorenz Erni, nie ces accusations qu'il juge sans fondement.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. En République centrafricaine, la tension reste toujours vive à quelques jours des élections groupées du 27 décembre. Les affrontements se sont poursuivis hier mardi dans plusieurs localités du pays. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Depuis lundi, la situation se corse davantage avec de nouvelles poches de tensions et des affrontements signalés ça et là. La ville de Bambari, deuxième grande ville du pays, est passée ce mardi sous le contrôle des combattants de la coalition des groupes armés après plus de 2 heures d'échanges de tirs avec les forces armées centrafricaines appuyées par les casques bleus de la MINUSCA. Mardi, en début de soirée, de violents affrontements étaient aussi signalés dans la localité de Bossombélé à moins de 150 km dans le nord-ouest de Bangui. Ces nouvelles tensions orchestrées par les groupes armés supposés proches de l'ancien président François Bozizé à quelques jours des élections présidentielles et législatives inquiètent la communauté nationale et internationale. À Bangui, le président Touadéra ne fléchit pas. Pour lui, les élections doivent se tenir le 27 décembre.
Vous savez que nous sommes en pleine campagne. Aujourd'hui, le 27, nous allons aux élections. C'est que nous condamnons. C'est que les gens, au lieu de rentrer dans le processus pour que nous puissions avoir la paix et rentrer dans un cadre démocratique, eh bien, malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violence. Je vois partout les gens font la queue pour retirer leur casque, ce qui démontre leur engagement, leur volonté à aller aux élections.
Alors que l'opposition politique a annoncé la suspension de sa participation à la campagne électorale, l'ancienne présidente Catherine Samba-Panza, elle aussi candidate à la présidentielle, pense qu'il faut aller aux élections, mais dans un climat apaisé.
Je condamne fermement l'occupation illégale de la presque totalité de notre territoire national par des groupes armés. J'exhorte à la responsabilité individuelle et collective de tous les acteurs politiques pour le déroulement serein du processus électoral en cours. J'exhorte d'ici la tenue du scrutin à l'instauration d'un dialogue franc et inclusif entre les parties prenantes aux élections. J'exhorte à la tenue des élections en cours à date fixée conformément au respect de notre Constitution et des recommandations des partenaires.
Un autre candidat à la présidentielle, Jean-Serge Bokassa, a annoncé ce mardi le retrait de sa candidature.
Il y a aujourd'hui la donne sécuritaire qui pour moi est l'aspect le plus important. Et donc je refuse de cautionner un scénario finement élaboré qui aujourd'hui n'a pour objectif que d'aller coûte que coûte aux élections pour ainsi dire voir un gagnant qui serait déjà connu d'ailleurs.
L'indignation est grande dans le pays face aux agitations de la classe politique et des groupes armés. Le groupe de travail de la société civile prévoit une grande marche le jeudi 24 décembre à Bangui pour Cresson Beninga, porte-parole.
Je voudrais lancer un vibrant appel à tous les Centrafricains le jeudi 24 décembre que nous nous retrouvions tous à 7h30 pour une grande manifestation populaire, une marche pour dire non à la rébellion. Ce n'est pas pour défendre l'intérêt d'un parti politique, c'est pour sauver la nation centrafricaine. La constitution, elle est claire, la rébellion n'a plus sa place dans ce pays.
Les organisations des femmes ont, elles aussi, annoncé des marches dans la capitale pour dénoncer ces nouvelles violences orchestrées par les groupes armés. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Mali, l'armée a commis des crimes de guerre et plusieurs groupes armés des crimes contre l'humanité. Ces allégations émanent d'une commission internationale sur le Mali établie par l'ONU. Des accusations graves contenues dans un rapport transmis aux membres du Conseil de sécurité. Dans ce document de 350 pages, les enquêteurs accusent les groupes armés. Mais l'armée malienne figure au premier rang des accusés de cette commission. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Dakar Ibrahim Akan. Il est analyste à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa.
Cette information vient simplement confirmer ce que beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme savaient. Savaient que dans le centre, le nord est maintenant ce qu'on appelle la zone du Liptako-Gourma, aussi bien l'armée malienne, l'armée burkinabé que l'armée nigérienne s'adonnaient à des pratiques qui sont interdites par le droit de la guerre, en tout cas le droit humanitaire. il y a des milices qui sont plus ou moins tolérées par ces armées, ou des milices qui sont créées par des populations elles-mêmes, qui elles aussi faisaient des opérations qui pouvaient être assimilées à des crimes contre l'humanité. Donc maintenant, on a officiellement la confirmation que de telles pratiques existaient dans la région. Et ça, c'est quand même quelque chose de très sérieux.
Pour la première fois, les conclusions de ce rapport pourront servir devant des tribunaux. Est-ce que c'est un fait important?
Bien sûr qu'il fallait en arriver là. Vous savez, enfin, on a des informations qui corroborent ce que beaucoup de gens savaient. Ces faits-là ne datent pas d'aujourd'hui. Cette guerre larvée qui existe au Mali, qui existe dans la zone, dans la région, je pourrais dire, est une guerre qui existe depuis des années. Et donc, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises de part et d'autre. Ces faits-là, à mon avis, doivent aider à maintenant régler, c'est d'abord régler le problème de la circulation des armes, c'est d'abord interdire, sous quelque forme que ce soit, les milices, les groupes d'autodéfense, en tout cas qui sont tolérés dans pratiquement tous les pays par les États. Parce que ce sont les actions de ces milices, ce sont les actions de ces groupes-là qui peuvent conduire à des représailles et puis créer des situations comme qui sont celles qui sont décrites dans le rapport des Nations Unies. Donc ça doit être la première action. Et la deuxième action, à mon avis, il faut que les armées-là soient des armées républicaines. C'est-à-dire des armées qui sont formées pour ne pas justement verser dans des pratiques comme celles qui sont dénoncées dans le rapport. Or, tout le monde sait qu'au Mali, il n'y a plus d'armée. Tout le monde sait que dans beaucoup de ces... que dans les pays voisins tels que le Niger et le Burkina Faso, il n'y a plus d'armée. Et donc, ça doit vraiment être un son de cloche qui vraiment doit réveiller tout le monde pour dire tant qu'il n'y aura pas d'armée professionnelle, on se trouvera toujours dans des situations comme celle-là.
Ibrahima Khan, analyste à OCIWA, Open Society Initiative for West Africa, il a été joint à Dakar au Sénégal par Bagassi Koura.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Sénégal, un groupe de femmes fournit des panneaux solaires aux habitations situées en dehors des zones électrifiées. Suite à la propagation de la pandémie de coronavirus, elles ont décidé de fournir de l'énergie solaire aux cliniques rurales également. Un reportage d'Annika Amerschlag, récit d'Ili Dikou.
Ces femmes sénégalaises du village de Tiamen Diago, célèbres car la clinique locale en charge des soins prénataux sera bientôt dotée de lampes électriques et de ventilateurs. L'infirmier en chef, Issa Kadia, dit qu'avec plus de 2500 personnes issues de 6 villages, il y a environ 8 naissances par mois, dont plusieurs se déroulent la nuit avec pour seule aide la lumière de son téléphone portable.
Je suis très content, sincèrement, je suis très content. Je sens que tellement on pourra faire travail jour et nuit. Jour et nuit, même à période de chaleur.
Cette région éloignée de l'ouest du Sénégal étant hors du réseau électrique, la clinique sera alimentée par l'énergie solaire. Depuis 2018, l'entreprise El Solaire, dirigée par des femmes, installe des sources d'énergie solaire chez les ménages ruraux. Avec la pandémie de Covid-19 qui a rendu les réalités quotidiennes encore plus difficiles, El Solaire a commencé à équiper les cliniques isolées avec de l'énergie solaire. Écoutons Kelly Lavelle, fondatrice d'El Solaire.
Nous avons tout simplement été surprises par la réception positive que nous avons reçue. Aujourd'hui, l'initiative est un exemple de réussite. C'est triste qu'il ait fallu que le Covid apparaisse pour que cette idée germe et que nous étendions notre action en clinique. Mais je suis vraiment heureuse que nous ayons réussi à transformer cette réalité en opportunité.
El Solaire offre également aux femmes la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Parmi elles, Jeanne Thiao, qui jusqu'à là se débrouillait avec de petits emplois de nettoyage et de garde d'enfants.
Avant, bien vrai que je payais le loyer, je faisais tout, mais je ne pouvais pas nourrir également une partie de ma famille parce que les moyens ne me les permettaient pas.
Depuis le début de la pandémie, Jeanne et ses collègues ont installé des lampes solaires, des ventilateurs et des chargeurs de téléphone portable dans 23 cliniques éloignées. Au Sénégal, plus d'un million de personnes n'ont pas accès à l'électricité, selon l'USAID et l'Organisation mondiale de la santé, qui souligne que les taux de mortalité maternelle sont élevés. Oumar Samb est le ministre sénégalais de la femme, la famille et la protection de l'enfant.
Quand une femme arrive pour accoucher la nuit ou arrive pour accoucher le jour, alors que toutes les machines se sont arrêtées faute d'énergie, évidemment c'est un danger qui pèse sur la femme qui accouche, c'est un danger qui pèse également sur le nouveau-né. Alors donc la présence de l'énergie solaire, l'accès à l'énergie solaire pour ces femmes dans les zones rurales permet de sauver des vies.
Et cela, explique ces femmes, est une excellente raison de célébrer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des pièces théâtrales virtuelles aux chorales en plein air, les célébrations de Noël cette année ont pris une tournure créative ici aux États-Unis. Véronica Balderas nous fait vivre comment les Américains marquent l'occasion en dépit des contraintes liées à la pandémie de COVID-19. Le récit est de Michel Joseph.
Maintenir la distanciation sociale durant la production d'une pièce musicale n'est pas chose aisée. Michael Baker a trouvé le moyen de maintenir l'esprit de Noël en dépit de la pandémie de COVID-19.
We made the whole stage a green screen.
Pour Baker, il n'était pas question que la pandémie entrave la production annuelle de la pièce musicale A Christmas Carol, un chant de Noël. Cet ancien réalisateur de télévision fait monter sur scène deux acteurs qui interagissent alors avec des projections d'autres acteurs.
Toutes ces scènes sont animées et toutes ont été intégrées dans le système de montage. Pensez au coût des planches que nous avons économisées pour cette pièce.
Seulement 46 spectateurs sont admis à chaque représentation de la pièce dans la petite salle de théâtre d'Alexandria, en Virginie, et tous doivent porter un masque facial. Les spectacles en intérieur ne sont pas nécessairement sans risque, mais Karen Toluzic et son fils de 6 ans disent faire confiance aux mesures sanitaires en place.
C'est important qu'ils offrent des choses comme ça, où nous pouvons aller et participer en toute sécurité aux activités festives.
Le nouveau coronavirus a forcé les autorités locales à annuler les activités traditionnelles de fin d'année, comme la parade des bateaux illuminés d'Alexandria. Même l'allumage de l'arbre de Noël de la ville s'est fait de manière virtuelle. Cependant, plusieurs émissions en ligne, pour la plupart dédiées aux enfants, contribuent à préserver l'esprit des fêtes. Christopher Richardson est le créateur de l'émission Everyday Magic.
The episode centers this idea of
l'épisode est axé autour de la joie de passer votre quarantaine avec votre famille et comment les souvenirs peuvent, en quelque sorte, accentuer la joie des Noëls des années passées.
Les organisateurs des traditionnels concerts et autres spectacles de Noël ont dû, eux aussi, s'adapter au COVID-19. Au cours des 6 derniers mois, environ 1500 spectateurs ont pris part à 40 concerts de musique classique à Alexandria, sous des conditions strictes de distanciation sociale.
Mes amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.